Affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Notre émission de ce jour relève du pari fou. Nous allons en effet entreprendre de présenter en moins d'une heure les quelques 50 années qu'Alain Besançon a consacrées à la recherche historique et aussi à quelques problèmes contemporains. Cette idée un peu folle ne nous est pas venue par hasard. Elle nous a été soufflée par la publication, aux éditions Les Belles Lettres, d'un recueil d'une dizaine d'essais publiés par Alain Besançon entre 1967 et 2015, soit quand même quelques 1500 pages. Cette idée s'est aussi imposée à nous par le sentiment que le regard porté par Alain Besançon sur les événements historiques, même lorsqu'il parle d'événements passés tels que le communisme ou l'Union soviétique, cette œuvre donc éclaire le présent. Je ne veux pas par là seulement dire que l'histoire nous aide à comprendre le présent, ce qui est bien sûr vrai. En l'espèce, cela va plus loin. Cela tient à la méthode même utilisé par Alain Besançon pour scruter l'histoire, pour comprendre par exemple le communisme. Il était conduit à en rechercher ce qu'il appelle la matrice, et en l'espèce la matrice religieuse. À travers l'histoire, l'écume des faits, la succession des événements et des données, il recherche les invariants. Son œuvre historique traque l'intemporel, or bien entendu il n'y a rien de plus actuel que l'intemporel. Et puis il y a une dernière raison qui nous a poussé à surmonter notre appréhension devant l'immensité de la tâche, c'est bien sûr de pouvoir nous faire aider de l'auteur. Nous avons en effet la chance d'avoir dans notre studio Alain Besançon, qui a eu la gentillesse d'accepter notre invitation et qui va donc nous guider dans l'examen et l'évolution de sa pensée au fil de ses 50 années de recherche. Monsieur, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
C'est avec plaisir, vous pensez bien.
Je dois poursuivre la présentation en disant que vous êtes bien sûr agrégé d'histoire, que vous étiez professeur aux États-Unis, que vous avez étudié également une année, je crois, en Russie, que vous avez fait carrière au sein de l'École des hautes études en sciences sociales et que, bien sûr, vous êtes membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Mais je m'en veux de vous présenter comme ça, à travers l'énoncé simplement de poste universitaire, car ça donnerait presque un petit côté artificiel à une œuvre qui part d'une nécessité plus intime.
Est-ce oui, comme m'a dit un de mes amis, très, très cher d'ailleurs, qui est un très bon penseur, m'a dit, moi je suis un professeur, mais toi tu es un auteur. Et c'est vrai que d'une certaine façon, j'ai écrit des livres comme un écrivain, puis après ça je les présentais, puisqu'il fallait bien, en thèse pour de façon à grimper dans le cursus honorum, ou ce que j'ai fini par faire, hein, alors que je n'avais pas la vocation pour ça. Mais enfin voilà.
Quel est le point de départ de cette œuvre dans laquelle il y a quand même un fil rouge et un élément déclencheur?
Ben écoutez, quand j'étais 19 ans, je crois, j'ai été pris au piège par le communisme, qui était à ce moment-là un truc très, très prestigieux en France. Beaucoup de jeunes gens qui ont fait depuis de très belles carrières dans l'université et même à l'académie ont été pris dans ce machin, dans cette vaste tromperie, dans cette vaste imposture. Et quelquefois, ils en ont fait d'ailleurs un épisode glorieux de leur passé. C'était beaucoup d'avoir été généreux, ensemble d'avoir été communiste, etc. Moi, pas du tout. J'ai eu le sentiment de m'être fait avoir, c'est pas agréable. Et en plus, d'avoir fait quelque chose de très mal. Parce que même à 18 ans, même dans l'ignorance où j'étais, c'est très mal d'avoir adhéré à ce truc-là. Qu'est-ce que je peux dire pour m'excuser? C'est que personne ne m'empêchait. Moi, j'avais fait Sciences Po, et à Sciences Po, le communisme était à l'honneur. Il y avait des professeurs qui étaient fiers d'être communistes et qui étaient des militants communistes. Bon, je pense à la géographie qui est enseignée par un militant communiste, Pierre Georges, ou à l'histoire de la Russie, qui était enseignée par un autre communiste, Bruat, etc. Et les gens, disons, les gens à Légion d'honneur, les gens au Conseil d'État, les gens à la Cour des comptes, ben, ils n'y voyaient pas d'inconvénient, ils trouvaient ça, après tout. Même un homme aussi éminent que Vedel, qui était un très très grand juriste, et un homme qui dominait le Sciences Po de toute sa stature, disait, ben, il y a deux sortes de démocraties, les démocraties représentatives chez nous, puis les démocraties populaires qui sont pas moins des démocraties, mais qui marchent sur d'autres ressorts. Bon, c'est une parole étrange, mais qui s'explique par l'époque. L'URSS venait de vaincre l'armée allemande, l'armée nazie. Elle était partie de la grande alliance de l'Amérique et de l'Angleterre. Il n'était pas décent de la critiquer, il n'était pas décent même de la connaître. Aussi, ne la connaissait-on pas en France ? En France, bon, et vous aviez eu avant 14. Vous aviez avant 14, il y avait une école française à Saint-Pétersbourg, et vous aviez eu des bons connaisseurs, des bons professeurs qui décrivaient la Russie, l'ancien régime, comme elle était. Le plus grand de tous, qui a un amphi à Sciences Po, qui l'a bien mérité, qui a été directeur de Sciences Po, c'est Anatole Leroy-Beaulieu. Anatole Leroy-Beaulieu a écrit vers 1990-1900. Il a écrit en trois volumes une espèce de grande somme sur la Russie, d'ancien régime, qui est l'équivalent pour la Russie de l'Amérique de Tocqueville. C'était beaucoup inspiré d'ailleurs de Tocqueville et de Taine. C'était pour des aspects, pas pour un certain nombre d'aspects. Et c'est un livre qui n'a jamais été dépassé, nulle part d'ailleurs. Je connais bien la littérature anglo-saxonne sur l'Amérique. Il y en a eu des livres très très remarquables dans les années 50 du XXe siècle. Mais je ne crois pas qu'il ait jamais existé un livre d'une sérénité aussi vaste, aussi profonde, d'une tenue philosophique aussi constante que l'Empire des Tsars et les Russes d'Anatole Leroy-Beaulieu. Rien que le prénom est daté, mais le livre n'est pas.
Alors par cette présentation, on touche d'emblée à l'un des traits les plus déstabilisants pour un lecteur d'aujourd'hui de votre œuvre, c'est que lorsque vous questionnez sur le communisme, vous en venez assez rapidement finalement à vous questionner sur la Russie.
Oui, parce que c'est quand même, le communisme est un mouvement mondial qu'il prétend s'originer dans une tradition socialiste et la tradition de Marx et d'Engels, surtout d'Engels en fait. Mais en fait, c'est un phénomène russe et c'est à partir de la Russie qu'il s'est développé mondialement. Enfin, la Russie a envoyé des équipes de missionnaires un peu partout, le Cominform, le Comintern. La Chine a été inondée de missionnaires venant expliquer le communisme aux Chinois, ce qu'ils ont fait avec succès. Hein. Bon, et alors évidemment la difficulté c'est de voir ce qui est russe et ce qui n'est pas russe dans toute cette histoire.
Ce qui était l'objet d'un de vos livres majeurs.
Je dirais quand même pour résumer que ce qui est russe c'est un tas de choses. C'est le fond, c'est l'intensité, c'est le style, c'est la religiosité, etc. Et ce qui n'est pas russe, enfin ce qui n'est pas forcément russe, c'est une formation psychique particulière que j'appelle l'idéologie. Qu'est-ce que c'est que l'idéologie ? Ben, c'est quelque chose qui est entre la science et la religion, qui se prétend anti-religieuse, mais qui a toutes les caractéristiques d'une foi, d'une croyance religieuse. Mais ça a l'air d'une science, n'est-ce pas ? Et ça prétend en être. Justement, la fierté de Marx, c'est qu'il avait c'est qu'il avait détaché sa théorie de considération morale, éthique, enfin bon, et qu'il s'était voulu une description des faits, une description de mécanismes. Bon, c'est pas vrai, il s'était gouré. Le pauvre Marx s'était gouré d'ailleurs, il n'a pas fini Le Capital parce qu'il s'est aperçu qu'il s'était gouré. Mais ça a été repris par des esprits beaucoup plus primitifs en Russie, des types, des drop-out d'université en général, des types, des jeunes garçons qui ne savaient pas grand-chose et qui ont pris Marx comme d'une façon très très fanatique et qui ont vu là la science absolue. La science absolue. Alors c'est Lénine, voilà, c'est Lénine qui a... Et qui est vraiment... Parce qu'on parle toujours du stalinisme, mais en fait, il faut dire le léninisme. Parce que Staline n'est jamais qu'un très bon élève de Lénine. Il a ajouté à Lénine, non pas le crime, parce que Lénine en a fait pas mal de crimes, mais une certaine joie dans le crime. Il aimait tuer.
Il y a une dimension pathologique qui était absente au départ.
Non, au contraire, c'était un criminel. Mais c'était un criminel, c'est pas forcément un pathologique. Lénine était plus un fou qu'un criminel, si vous voulez. Il croyait à ce qu'il disait. Staline aussi croyait à ce qu'il disait, mais enfin, il le croyait dans une atmosphère de plaisir de tuer, de plaisir de vaincre. Mais Lénine n'avait même pas ce plaisir-là. Il avançait comme une termite dans sa poutre.
Alors dans cette description de l'idéologie, est-ce que on a parlé du parallèle avec quelque chose de religieux, le terme qui revient le plus souvent pour le caractériser dans votre œuvre, ce serait une gnose. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela?
Bah, la gnose, c'est un phénomène très ancien. Vous avez des religions comme le judaïsme et le christianisme, qui est le prolongement du judaïsme, dans lequel on demande à Dieu de faire certaines choses, hein, de sauver son peuple, hein, de protéger le chrétien, de protéger le juif, de faire régner la justice, que ton règne vienne, c'est dans le Notre Père. Dans l'idéologie, dans la gnose plus exactement, on se passe de Dieu. On a le schéma sotériologique, on sait comment on va sauver le monde, on a les recettes, on va les appliquer soi-même. Il y a un « do it yourself » dans la gnose. Hein. Et il suffit de connaître le schéma général et de l'appliquer, et on sera sauvé. On sera sauvé. Et vous avez eu dans les débuts des religions, de la religion chrétienne, enfin au tournant de jonction du christianisme et du judaïsme, vous avez eu un énorme développement de systèmes gnostiques. Hein. Le manichéisme, le valentinisme, voilà, dans lequel on expliquait. Alors à la suite, ça s'enveloppait d'une mythologie assez grande. Mais toujours, il s'agissait d'une rationalisation du dogme juif et chrétien. Le christianisme repose sur des mystères. Enfin, nous appelons ça des mystères, mais ceux qui n'y croient pas disent seulement que ce sont des absurdités. Hein. Un Dieu en trois uniques, en trois personnes distinctes, ou un homme qui est aussi Dieu, entièrement homme, sans confusion, sans séparation, sans mélange. Bon, c'est des absurdités logiques. Mais en même temps, pour ceux qui croient, les chrétiens, eh bien, ce sont des mystères qu'il faut toujours approfondir et qui dégagent d'eux-mêmes une certaine lumière qui permet d'avancer de quelques pas dans la compréhension de ces mystères incompréhensibles. Et la gnose est souvent une tentative de rationaliser ces mystères. Par exemple, il est tellement plus simple de dire oui, en fait, la Trinité c'est très joli, mais enfin, bon, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, c'est les créatures de Dieu, le Saint-Esprit, ça vient d'une troisième création, c'est beaucoup plus logique. C'est au fond, l'islam est une certaine rationalisation de la Trinité. Hein, il y a Dieu, il y a Jésus-Christ qui est une sorte de prophète, le Saint-Esprit n'existe pas trop. ou du moins si c'est rejoignable par la philosophie, là, bon, la théosophie, etc. Bon. Ou là, prenez le nestorianisme. Le nestorianisme a été une énorme déviation du christianisme orthodoxe. C'est le nestorianisme qui a essayé de conquérir l'Asie, la Perse, l'Inde, la Chine, etc. Mais il n'y est pas parvenu. Le nestorianisme est un rationalisme par rapport à la dogmatique chrétienne, puisqu'il dit que Dieu est dans le Christ comme l'inspiration chez les prophètes. Bon, ben c'est assez logique de dire ça. Le Christ a parlé, c'est un homme, mais qui a parlé divinement parce qu'il était possédé par Dieu. Bon, mais c'est plus logique. C'est plus logique parce que les prophètes d'Israël sont effectivement des gens comme ça. Ce sont des hommes qui sont possédés par la parole divine. Le Christ, c'est plus compliqué que ça. Il est homme et Dieu, ce qui est incompréhensible.
On veut dire que lorsqu'il y a des failles ou des éléments incompréhensibles, cela protège d'une forme de dogmatisme ou de systématisme ou de dans la pensée et l'action. En quoi le communisme ou le léninisme, pour être plus exact, est-il une gnose, est-il issu d'une façon de penser gnostique?
Ben oui, puisque il possède les recettes du salut. Hein. En somme, si le communisme s'implante, ça sera fini des injustices, ça sera fini de l'exploitation, ça sera fini de tout ce qui empêche la vie de s'épanouir sur Terre, ça sera fini de la pauvreté, etc. Pourquoi ? Ben, on appliquera des recettes qui consistent, dans le cas du communisme, à supprimer la propriété, nationaliser les moyens de production, établir de la rationalité dans l'économie. Dans toute gnose, vous avez une aspiration à la rationalité. Hein ? Et puis ça marchera très bien. Alors ce qui a été terrible dans l'établissement du communisme, c'est que Lénine a cru vraiment que ça y était, hein, qu'il avait pris le pouvoir et que par conséquent ça allait marcher. Et puis ça n'a pas marché. Ça a été d'un seul coup la famine, la guerre civile, les fusillades, les injustices, etc. Et on n'en est jamais sorti. Il a fallu perfectionner l'appareil communisme, avoir la meilleure police, la plus abondante police qui avait jamais existé, etc., etc. Et puis ça ne marchait toujours pas. Et ça finit par se casser la gueule complètement en 1990, quand vraiment il n'y avait plus rien dans les boutiques et qu'il n'était même plus capable d'aligner un système de défense capable de tenir le coup dans le monde tel qu'il était.
Alors ce qui est intéressant dans cette expérience, c'est que bon, qu'on puisse avoir se projeter dans un avenir où un nouveau système fonctionnant mieux, apportant des bienfaits arrive, pourquoi pas. Mais lorsque ça ne fonctionne pas, que le réel résiste, quel est le passage qui fait qu'on va finir par vouloir plutôt nier le réel, le tordre, le contraindre, voire le haïr, plutôt que de façon assez empirique, se dire bon, bah, on va régler les choses.
Ou alors on recommence l'expérience. On recommence l'expérience, puisque ça n'a pas marché en Russie, on va faire quelque chose de mieux en Chine, quelque chose de mieux au Vietnam, quelque chose de mieux à Cuba, quelque chose de mieux n'importe où, dans l'Angola, ou n'importe où. Ça ne marche toujours pas. Alors là, c'est terrible. Ou alors, on force à marcher, ou on dit que ça marche. Et alors là, c'est là qu'on commence. Alors là, la chose la plus pénible du communisme, c'est du moins ce que Solzhenitsyn a dit, et je crois qu'il a raison, c'est le règne du mensonge. On essaye de faire croire que ce qui est n'est pas, ce qui est, c'est-à-dire le monde tel qu'il est, ben, ne l'est pas, et que ce qui n'est pas, c'est-à-dire le socialisme, existe. Et ça, c'est une erreur dans laquelle, justement, je parlais de Sciences Po tout à l'heure. Ben, dans Sciences Po, on croyait sérieusement qu'il existait une société socialiste. Il n'existe pas, il n'a jamais existé une société socialiste. Il a existé un État socialiste et des formes dans lesquelles on forçait la réalité sociale à pénétrer. Bon, on avait supprimé les syndicats, mais on a inventé des pseudo-syndicats dans lesquels on forçait les gens d'entrer, où il n'y avait pas de presse libre. Mais on faisait un monde de journal et de radio et télévision dans lequel la pseudo-réalité était exposée tous les jours de façon lancinante. Et même, ça se traduisait dans le langage, où le langage humain, le langage qui sort de la bouche des hommes, naturel, eh bien, est remplacé par ce que Orwell appelait « the dog speak », un voix de canard, une autre voix, la langue de bois. La novlangue, la langue de bois. Enfin, il y a eu plusieurs hommes qui ont été frappés. Tiens, François Staub a fait un très bon livre sur la langue de bois, sur les mécanismes linguistiques qui s'emparent de la bouche humaine pour lui faire dire autre chose, et un langage stéréotypé. Ben ça a duré comme ça pendant 70 ans. Maintenant, on s'en désintéresse aujourd'hui, mais enfin, ça a duré 70 ans. Alors, vous avez eu une autre monstruosité qui était beaucoup mieux connue que la monstruosité communiste, c'était la monstruosité nazie. Là, ça reposait également sur une science, hein, sur un darwinisme complètement délirant et dégénéré. Hein. On disait qu'il fallait rétablir une hiérarchie des races conformément à la hiérarchie des races que le pseudo-darwinien nazi était capable de reconstruire. Bon, ça aboutit
à... C'est une gnose biologisante, en quelque sorte.
C'est une gnose biologisante, mais qui a abouti à des désastres, mais beaucoup plus connus, beaucoup plus... dont la mémoire est très, très entretenue, alors que la mémoire communiste est au contraire mise de côté et supprimée.
Comment l'expliquez-vous ?
Ben là, non, l'Allemagne s'est prodigieusement retournée sur elle-même et a fait un travail de repentir extraordinaire et elle a réprimé enfin, des centaines de gens. Or, dans l'espace du communisme, et nous sommes en 90, il est mort depuis presque 30 ans, hein, le communisme. Eh bien, vous n'avez pas eu un seul homme poursuivi ou condamné à mort sur l'inculpation de crimes communistes. Par exemple, au Cambodge, vous avez eu quand même un tiers de la population qui est mort en quelques semaines. Un tiers de la population, quand même, c'est énorme. Et ça a été fait par des petits intellectuels de rien du tout, enfin, qui ont massacré tout le monde, enfin, qui ont pris le pouvoir et ont commencé à faire marcher la machine à tuer. Bon, ils ont été ennuyés. Quand le système est mort, ils ont été mis en prison. Aucun n'a été exécuté. Hein. Alors que quand même, les nazis ont été exécutés. Personne ne s'en plaint.
Oui, mais est-ce que ça ne tient pas une différence de nature, malgré tout ?
Hein ?
Malgré tout, même si y a une forme de parenté gnostique, probablement aussi, c'est une autre question que je voulais vous poser en vous écoutant parler, c'est qu'on a quand même le sentiment qu'au-delà d'une extraction du réel, d'une négation du réel, il y a aussi une forme de haine du réel. Est-ce qu'il n'y a pas cette dimension-là aussi ?
Oui, c'est vrai.
Au-delà du délire et du mensonge,
ben écoutez, j'ai relu, j'ai
détruire
relu,
le réel.
J'ai relu récemment le manifeste communiste de Karl Marx, qui est de 1848. Il y a une chose qui m'a frappé, c'est un texte très brillant. Hein.
Ah oui, oui.
C'est un texte
très bien écrit, en tout cas.
C'est très bien écrit, c'est vraiment tapé, il y a un élan extraordinaire. Mais c'est un texte bourré de haine. Bourré de haine. Vous n'avez pas ça chez les braves socialistes d'avant, qui étaient des espèces de vagues chrétiens dissidents, qui étaient gentils avec tout le monde, etc. C'est pas du tout ça. Là, vous avez un monde d'amis et d'ennemis. Les ennemis sont désignés avec précision. Et leur destin, ben, c'est d'être anéanti par l'histoire. Bon, alors évidemment, Marx était quand même un homme... C'est un homme de l'Allemagne de l'Ouest, enfin c'est un homme qui a vécu à Paris et à Londres, c'est un homme de l'autre monde.
Parce que finalement, on n'est pas amené à penser qu'au-delà de l'idéologie et même de la matrice russe, est-ce qu'on n'a pas affaire à des choses qui sont inscrites dans la nature humaine, finalement? Parce que pour que ça naisse comme ça, ici ou là, à différents moments de l'histoire et de la surface du globe...
La nature humaine n'est pas contente. Le monde n'est pas sympathique. Il y a de la justice, il y a de la pauvreté, il y a de la misère, il y a de la... Enfin, toutes ces choses-là existent profondément. Et ça, des mesures radicales pour en finir avec ces choses-là, l'imaginaire d'une société parfaite, je crois que ça sera difficile de l'ôter de la cervelle de l'humanité.
Oui, quel est l'antidote? Parce qu'après tout, si c'est un poison intellectuel...
Ben, écoutez, la religion non gnostique, par exemple, les juifs et chrétiens, elle dit qu'il n'y a pas de société parfaite, qu'il n'y aura jamais de société parfaite. Hein, le Christ a dit, vous aurez toujours des pauvres parmi vous. Alors l'idée que de l'égalité, etc., parfaite, ben, ça n'existe pas. Et l'égalité parfaite, ça consiste à couper les pieds ou la tête de façon à faire entrer les personne dans le lit de Procus, hein, qui était trop grand ou trop petit, mais enfin, il fallait surtout trop grand. Hein, on coupe les deux bouts. Hein. Mais ça, c'est des rêveries qu'on ne peut pas arracher à l'humanité. C'est ce que dirait Kant, dirait, c'est les idées régulatrices de la déraison.
Alors dans ce tableau intellectuel général et des liens qui peuvent exister entre l'histoire et des aspirations spirituelles, religieuses. Vous êtes penché également sur le cas des États-Unis. Donc on va franchir l'Atlantique. Pour l'instant, comme il était question de communisme, oui. À part Cuba, on n'a pas franchi l'Atlantique. Allons-y. Quel est alors là, en l'espèce, le logiciel quand même très particulier? Puis là, c'est un pays totalement neuf. Donc il était possible de le construire à partir de ses aspirations.
Dans les bases spirituelles, était quand même ancienne. Et la base spirituelle de l'Amérique, c'est quand même les dissidents de l'anglicanisme, c'est-à-dire les puritains. Les puritains étaient des chrétiens, ils sont toujours des chrétiens. Alors bien sûr, il y a eu un afflux énorme de juifs, de catholiques, de...
Dans un second temps. Oui.
Dans un second temps, mais enfin la matrice, hein, la matrice, c'est quand même le puritanisme. Et dans le puritanisme, ben d'abord il y a l'idée d'une société de saints, hein, une société hein, et l'Amérique s'est vue comme cité upon a hill, hein, c'est-à-dire une image biblique dans la cité sainte, hein, mise sur une colline, hein, et qui est somme de, qui doit guider le monde entier. Et dans cette cité sainte, il y a un mot d'ordre. Un idéal qui est quand même dans la Constitution américaine, the pursuit of happiness. Hein, la poursuite du bonheur, c'est un droit. C'est un droit. Moi, je veux bien que la poursuite du bonheur soit un droit, mais ce droit, êtes-vous heureux? c'est quand même. Bon, on a des moments de bonheur, mais on n'est pas fondamentalement heureux. Et ben, parce que nous vivons sur Terre. Et que nous ne sommes pas une cité upon a hill. Nous ne sommes pas une cité sur la colline, nous sommes une cité en bas. Hein, et dans laquelle les Américains, quand même, les Américains sont extrêmement... Ils n'ont pas vécu dans l'utopie. Hein, vous avez cette base, un peu comme dirais-je, cette base... comment dire en musique, enfin une base... base musicale, enfin si vous voulez, mais l'Amérique a passé son temps à se critiquer elle-même et à se décrire elle-même, et à se décrire elle-même par le cinéma, par la presse, par la musique, par 36 000 choses. L'Amérique ne ment pas sur elle-même. En tout cas, vous avez des tas d'Américains...
Il y a des voix discordantes, ça d'accord.
Qui disent que l'Amérique est un pays épouvantable, ce qu'elle n'est pas, mais enfin, elle peut l'être. Hein, et elle ne le cache pas. Hein, et ceux qui... Il y a en Amérique une justice très efficace, mais qui est en même temps très sévère, très dure. Vous avez quand même 2 millions de personnes en prison aux États-Unis, ce qui est considérable. Vous avez 70 000 prisonniers en France. Alors multiplié par 5, ça fait 5 fois 7, 35, ça fait 350 000 prisonniers en proportion américaine. En Amérique, c'est 2 millions, plus de 2 millions. Hein. Bon, c'est quand même un vrai problème, ça, si vous voulez. Ben, ce pays aussi varié, aussi lâche, dans lequel règne une liberté très considérable, ne peut tenir le coup que si on obéit à la loi. Et la loi est très sévère. Hein, si vous avez été aux États-Unis, vous savez ce qui vous arrive quand vous passez de 93 km à l'heure à 96 km à l'heure. Bien, on vous dit de sortir, on vous met la main sur le capot, on vous fouille complètement. Et si vous révoltez, vous risquez gros.
Oui, ça c'est un aspect, mais est-ce que dans le fond de leur façon de s'envisager eux-mêmes, d'envisager le monde, et puis l'histoire, l'avenir, il ne reste pas cette énergie messianique. Vous l'avez dit au départ, c'est quand même un songe sur une cité idéale qu'on va établir sur des terres vierges, qui ne l'étaient pas tout à fait d'ailleurs. Ça pour dire que cette analyse très pertinente du marxisme-léninisme comme un élan de nature finalement religieuse, même s'il passe par la négation des religions traditionnelles, ne retrouve-t-on pas ce même type d'élan et cette volonté de transfigurer, transformer le réel aux États-Unis?
Écoutez, la Constitution américaine a été faite par des gens qui n'étaient pas de ce milieu puritain de la République des Saints, hein, qui existait du côté de dans le Massachusetts, enfin, etc. Ça a été fait par des gentlemen de Virginie qui étaient déistes. Jefferson ne croyait pas tellement plus en Dieu que Voltaire, hein, et c'était son maître. Hein. Madison, c'était pareil. Franklin, la religion de Franklin, c'est pas grand-chose. Donc, ça a été fait sur des bases d'un mécanisme de politique tel que le pouvoir arrête le pouvoir, selon la bonne recette de Montesquieu. Hein. Et Montesquieu a été quand même une des bases de la démocratie américaine. De la démocratie américaine, non pas de la démocratie, mais du mécanisme du pouvoir américain dans lequel on empêche de dégénérer vers la prise du pouvoir par un groupe de fanatiques. Hein. Et ça, quand même, les gens de Virginie qui ont fait la Constitution américaine se méfiaient de la religion. Et d'une certaine façon, dans ce peuple si religieux que les États-Unis, qui est à peu près le dernier peuple religieux de notre monde,
le monde occidental, oui.
La Constitution est officiellement athée. We the people of America. Hein? We the people of America. C'est pas God. Hein? Et Dieu. In God we trust, ça a été mis sur les billets de banque à un moment d'une espèce de petite poussée religieuse sous Roosevelt, sous Eisenhower. Mais sans ça, non, c'est neutre. Et comme ils ont dû tout de suite eu affaire à un pluralisme religieux énorme, hein, vous avez l'arrivée des masses baptistes, et ça a vu l'arrivée des masses des allemandes qui étaient luthériennes et du nord, vous avez eu l'arrivée des italiens catholiques, des latinos catholiques, vous avez eu des juifs qui sont arrivés massivement, quand même de façon énorme, et tous ont fait leur place à la faveur de ce pluralisme religieux constitutionnel américain. Vous savez, Voltaire avait dit, ce qui est bien dans le pluralisme religieux, c'est que quand il y a deux religions, elles s'égorgent, mais quand il y en a 36, elles se respectent. Eh bien, les Américains ont appliqué ça à la lettre. Hein. C'est-à-dire, ils ont empêché à une religion d'avoir une
prééminence trop forte.
Prééminence trop forte, et ça a réussi. Bon, ça a réussi pratiquement. Pas théoriquement, mais pratiquement. Et l'Amérique n'a jamais été un pays totalitaire, bien que quelquefois, elle a eu des moments difficiles, l'Amérique. Le Sud n'a pas été sympa. Et la résolution de l'affaire sudiste, ça a été une longue et sinistre affaire hein, qui a duré un bon siècle. Et c'est même pas terminé.
Et aujourd'hui, puisqu'on en est à l'Amérique, quel regard portez-vous sur l'Amérique d'aujourd'hui ?
Ce qu'on voit actuellement, c'est une révolte des non-diplômés contre les diplômés. C'est une lutte de classe d'un type particulier qu'on ne connaissait pas, qu'on va peut-être voir en France, et un de ces jours, parce que l'Amérique en général est en avance sur la France. Vous avez les diplômés, c'est-à-dire qu'on les voit la côte Est et la côte Ouest, et puis à l'intérieur, tout ce monde du brave américain, des États de la plaine ou des États du Sud, enfin, et qui vote républicain. Trump a sa constituency, hein, et elle ne bouge pas sa constituency. Il risque de faire deux mandats. Il risque de faire deux mandats, bien qu'il y ait des cris d'orfraie dans la presse démocrate, il est chic, dans la côte Est. Quand vous lisez le New Yorker, vous avez l'impression que Trump va s'effondrer, mais non, il ne s'effondre pas. Il continue d'être populaire aux États-Unis. Qu'en pensez-vous ?
De façon un peu provocatrice, je dirais qu'il y a une petite connotation d'analyse marxiste dans le raisonnement, puisque ce sont, semble-t-il, les perdants de la mondialisation qui se révoltent contre les gagnants de la mondialisation, ceux qui sont de l'ancien monde industriel en déshérence, face aux diplômés qui sont sur les côtes interconnectées
qui font de
la planète.
Qui font de l'électronique à côté de ceux qui font de la sidérurgie ou du maïs. Oui, c'est sûr.
Finalement, les données économiques et sociales...
Mais c'est pas marxiste, c'est éternel, ça.
Les données économiques et sociales comptent, c'est ça. Oui, c'est une boutade,
compte énormément,
sûr.
Oui.
Compte énormément.
Et puis l'arrogance des gens de l'Est, quand même, l'arrogance qui est réelle. Hein.
Oui, et puis je pense que sur la côte ouest aussi, un petit peu, quand même. Hein, l'arrogance des gens de la côte ouest aussi. Je pense que dans la Silicon Valley,
les deux côtes,
ils sont assez arrogants.
Hein. Moi, j'ai passé un an à Stanford, j'entends vous dire qu'on est une race de seigneurs à Stanford, et que les gens du Missouri ou du Minnesota, c'est pas pareil.
Pour conclure, un petit mot sur la France d'aujourd'hui. Comment la voyez-vous face à ces aux enjeux de diverses natures qui s'y manifestent? On sera revenu à la maison après ce tour du monde.
Je dirais de la France ce que je dis de la Belgique. Ce sont de très beaux, très riches pays, des pays très opulents, mais qui n'arrivent pas tout à fait à s'entendre. C'est ça qui est embêtant. Pour la Belgique, c'est autre chose. Pour la France, il y a 36 000 raisons. La France n'a pas trouvé un équilibre politique solide. Elle a cru l'avoir dans les années 1870-1880, enfin ça a vite tourné allègre. La Belgique, elle a toujours ce problème national qui n'est pas résolu, qui n'est pas soluble. Bon, mais moyennant quoi, ce sont des beaux pays, opulents, riches, où il fait bon vivre. Je ne vois pas beaucoup de Belges qui aspirent à aller à Cuba. Hein. Je ne crois pas. Je vois beaucoup de Cubains qui seraient très heureux en Belgique ou en France.
Certes. Écoutez, je vous propose qu'on termine sur cette note réjouissante, finalement, car c'est vrai, nous avons souvent tendance à voir le verre à moitié vide sous nos latitudes, alors qu'il faut savoir le voir aussi.
Nous sommes au mois de mai, nous sommes au bord de la Seine, les arbres sont en pleine verdure.
Exactement, il faut en profiter, et sous les frondaisons, il est tout à fait possible de lire, et donc je vais inviter nos auditeurs à se plonger dans un ouvrage qui peut les occuper tout au long de l'été avec ses 1500 pages et peut-être même jusqu'à l'automne si on lit avec beaucoup d'attention, bien que ce soit écrit dans une langue, je tiens à préciser, très littéraire, et donc c'est un ouvrage qui est savant par son fond, mais dont l'expression est tout à fait aisée. On peut parfaitement s'y plonger, même... même sous des frondaisons, avec
dans un hamac
avec un bon verre de vin pour profiter de tous les charmes de notre pays,
ou un mint julep si on est aux États-Unis.
Voilà, ou une vodka si on est dans une...
Ça, on a moins de chance de dire. Encore que j'ai été traduit très très fortement en Russie.
Sous forme de samizdat.
Sous forme de samizdat. Enfin, j'en suis très fier du samizdat.
Il s'agit donc là, ce n'est pas un samizdat, c'est trop compliqué à transporter dans des valises le volume. Il s'agit de Contagion, essai 1967-2015 par Alain Besançon aux éditions Les Belles Lettres. Excellente maison d'édition par ailleurs. Merci beaucoup. Thank you.